Alors écoutons tout de suite un extrait de l'émission « Là-bas si j'y suis » diffusée le 31 mars 2004. L'émission sur les vignes en Saône-et-Loire et dans le Médoc. Et vous allez entendre le témoignage de Pascal Fourneau.
Je travaille dans les vignes depuis 32 ans. Je suis malade depuis 5 ans.
Et donc vous pensez que c'est lié à votre activité professionnelle, c'est-à-dire au travail dans les vignes, dans les caves?
Oui, plus dans les vignes, quoi. Plus en contact avec les produits, parce que je préparais les bouillies, et après on travaille dans les vignes, donc on est au contact toute la journée. Et quand il fait chaud, c'est encore pire, parce qu'on est en short, t-shirt, voire torse nu, et la peau, elle absorbe tous les produits. Et les traitements, il y en a, suivant les saisons, entre 8 et 9 traitements, quoi. Plus on va dans la période de la pousse de la vigne, plus après il y a les insecticides qui finissent. Donc c'est encore plus dangereux, quoi. On était enduit de produits. Et en plus, le tracteur passait dans les vignes et on restait dans les vignes. On se retournait juste, y passait et on retravaillait aussitôt. Parce que maintenant, il y a des délais de rentrée dans les vignes. De 24, 48, 72 heures. Il y a eu des traitements où je suivais le tracteur. Vérifier si les jets étaient bouchés et tout ça. Et donc, j'étais enduit de produits, quoi. Et on a fait ça, ouais. 3 ans. Moi, j'ai 3 ans de suite.
Mais avec une protection?
Rien du tout. Disons que ça arrange pas. Surtout des insecticides. Vu les doses de produits qu'on met, ça durait 11-12 heures par jour.
Gérard Borvon, je me tourne vers vous. Ces témoignages, on a commencé effectivement à les entendre au début des années 2000. Et ce sont finalement des mouvements de citoyens qui ont permis d'avancer un petit peu, alors d'une manière législative, on en parlera tout à l'heure, mais au moins en matière de reconnaissance de ces problèmes-là, de ces intoxications aiguës, notamment dues aux pesticides dans ce cas-là, ou aux traitements chimiques agricoles. Et il faut souligner que depuis, des organismes comme la MSA, donc la Mutuelle Sociale Agricole, a reconnu justement ces maladies professionnelles. Donc une réaction peut-être.
Oui, c'est vrai. Mais d'un autre côté, beaucoup de travailleurs victimes de maladies professionnelles dont ils savent qu'elles sont liées à l'usage des pesticides qu'ils ont utilisés, ils ont beaucoup de mal aussi à les faire reconnaître par les MSA. La MSA fait des progrès dans un certain sens, mais elle est quand même aussi réticente. On a en Bretagne des cas de personnes intoxiquées qui se battent pour faire reconnaître leur maladie comme maladie professionnelle, parce que le nombre de maladies professionnelles qui doivent exister parmi les agriculteurs ou les gens qui travaillaient dans les usines où on utilisait le stockage, par exemple, où on utilisait des pesticides, est sûrement bien plus important que ce qu'on peut imaginer. Quand le problème sortira vraiment, on se rendra compte que c'est un véritable problème de santé pour tous les travailleurs qui ont manipulé ces pesticides. Et il est vrai que ce sont les associations qui ont été les premières à alerter. Quand on voyait utiliser du Roundup, par exemple, sur les trottoirs dans les villes, au ras des écoles, quand on voyait sans aucune précaution, même à l'intérieur, parfois, des jardins publics, les pesticides utilisés, ce sont les associations qui sont mobilisées pour dire halte-là. Bon, on arrive maintenant à un certain progrès parce que les pesticides vont être exclus des villes. On voit des communes qui les utilisent abondamment, qui affichent maintenant à l'entrée de la ville une pancarte qui indique que leur commune n'utilise plus de pesticides. Alors on voit sur cette pancarte des papillons, des coccinelles, etc. Bon, c'est une bonne chose. Mais pendant ce temps-là, dans l'environnement agricole, le pesticide continue à être utilisé massivement. Chez nous, au printemps, on voit des champs d'une couleur orange extraordinaire et c'est pas dû à une sécheresse, hein. On est là en pleine période humide. Non, tout simplement, les champs ont été arrosés de Roundup, des champs qui avaient été plantés pendant l'hiver pour retenir justement les nitrates. Eh bien, dans la période ensuite où on va semer le maïs, où on va étendre les lisiers, les pesticides, eh bien, on traite ces champs Roundup. Les personnes qui habitent à côté, eh bien, sont en période d'épandage, intoxiqués à un degré qu'on mesure certainement très mal.
D'ailleurs, je rappelle, puisque vous parlez du Roundup, ce désherbant, que le glyphosate, qui devait normalement subir un coup d'arrêt, le 28 juin, a bénéficié d'une prolongation de 18 mois, voilà le temps que la Commission européenne se prononce. Et c'est vrai que tous ces mois perdus, bien évidemment, on pense aux possibles victimes, surtout face à ce que vous appelez tous, hein, et je pense qu'aujourd'hui, c'est le nom, ces enjeux de santé publique. Docteur Marianne Herra, alors il faut rappeler que les personnes qui sont touchées, c'est peut-être pour ça aussi qu'il faut du temps de prise en compte. Hein. Les personnes qui sont touchées sont des personnes plus fragiles. Notre corps est composé de barrières biologiques de protection, mais qui ne sont pas égales. Nous ne sommes pas tous égaux en la matière. Et donc, effectivement, c'est aussi ce paramètre-là dont il faut tenir compte, peut-être pour expliquer le retard. Alors dites-nous, on ne manque pas de rapports. On l'aura bien compris, la connaissance de la gravité de la pollution de l'air est déjà bien connue. Mais pourquoi un tel retard désormais dans cette prise en compte ?
Écoutez, c'est la bonne question qu'on se pose tous les jours. Effectivement, on a les chiffres, on a l'évidence scientifique, on a même les citoyens qui commencent à comprendre, parce que c'est des fois difficile de voir la relation, les rapports entre un risque environnemental, un pesticide ou une substance chimique, et comprendre l'impact sur la santé. Des fois, la connexion n'est pas si immédiate pour les citoyens, mais les cas de la pollution de l'air, quand on voit les habitants de Beijing, par exemple, ils ont déjà compris que ça affecte leur santé, qu'ils ne peuvent pas respirer, que ça pose un problème, alors ils commencent à faire beaucoup de pression politique. Nous, de notre côté, on fait que ça, on alerte tout le temps, on travaille avec les maires des grandes villes, on travaille avec les gouvernements, on met les interventions aussi qui vont être efficaces et qui vont bénéficier énormément la santé, et avec la santé, ça va réduire aussi les coûts économiques, parce que des fois, ça, c'est un argument qui aide aussi à mobiliser énormément. Mais quand on voit aujourd'hui comment les gens dans les grandes villes des grands pays, hein, soi-disant en voie de développement, ils sont soumis à cette pollution dans les villes irrespirables à la fin de la journée, quand on est à Lima, ou quand on est à la capitale même du Mexique, ou quand on est à Beijing, ou plein de villes où vraiment on a des difficultés à respirer. Et ça, cette tendance, il faut entre tous, avec l'aide des moyens de communication aussi, de votre aide en tant que journaliste, de passer un message qui on s'attendrait à que l'action soit immédiate et que ce soit une priorité d'un gouvernement. J'espère que les citoyens vont comprendre cette importance et nous aider à créer cette pression politique positive qu'on doit créer dans le monde et mettre en place des mesures qui vont être bonnes pour réduire la pollution, mais comme je disais avant, ça va aussi réduire un coût économique énorme. Les bien-être des gens, c'est pas seulement on va éviter des morts, c'est aussi on va éviter la souffrance de maladies qui sont très chroniques et qui coûtent aussi énormément au système sanitaire. Et en plus, on va avoir des villes et des pays qui vont être beaucoup plus agréables dans tous les sens. On va protéger l'environnement et l'environnement va nous les rendre en meilleure santé pour tous.
Et puisque vous évoquez les chiffres, justement, on va pouvoir en donner quelques-uns. Une commission d'enquête sénatoriale en France avait chiffré, donc mi-juillet 2015, le coût de l'inaction face à la pollution de l'air à 101,3 milliards, en précisant que le coût sanitaire était évalué, lui, entre 68 et 97 milliards d'euros. Et à l'échelle donc mondiale, on parle de, et c'est un chiffre de l'OMS, Docteur Marianne Herra, on parle d'une étude évaluant le coût des maladies et mortalités dues à la pollution de l'air d'une hauteur de 1,6 billion d'US-dollars. Et je rappelle qu'un billion, c'est 1000 milliards. Donc effectivement, ces chiffres-là, comme vous le disiez à l'instant, ont de quoi interpeller Robert Baroucki.
Bien sûr, parce que d'abord, il y a les coûts sanitaires. Ça. On est malade, on va à l'hôpital, on sait tous combien ça coûte. Mais c'est beaucoup plus important que ça, parce qu'on ne travaille pas pendant ce temps-là, donc on produit pas. Donc les économistes savent calculer ça. Et puis, il y a des effets. On a parlé tout à l'heure des effets de la pollution, notamment sur le fœtus, hein, le développement fœtal et tout ce qui se passe après. Et parmi les impacts... Donc on voit après la naissance, il y a le développement neurocomportemental, hein, le développement neurologique, etc. Et en particulier le QI, quelque chose d'aussi simple que le QI. Eh bien, on sait très bien chiffrer la diminution d'un point, deux points, trois points de QI, ça se chiffre. Et donc les budgets que vous citez, donc les coûts que vous citez, il y a l'aspect sanitaire, il y a la perte aussi de la participation économique, il y a les problèmes neurologiques et donc tout ça s'additionne.
Alors de quelle façon est-ce que tout cela peut interpeller la sphère politique. On va se pencher sur cette question en cette deuxième édition de Journée sans voiture dans Paris. Petit rappel des premières mesures prises. Nous repartons dans les archives de l'INA. Première annonce de la circulation alternée par la ministre de l'Environnement, Corinne Lepage. C'était le 11 mars 1997.
Monsieur le Premier ministre a décidé, à ma demande et après concertation avec les collectivités, que si nous parvenions à un niveau 3, nous passerions à un système de circulation alternée sur la ville de Paris et également sur toutes les communes voisines adjacentes desservies par le métro. Ce système permettrait par conséquent de circuler en jour pair ou en jour impair, avec bien sûr des dérogations pour les véhicules utilitaires, pour les taxis, pour les autobus, pour les véhicules électriques, ainsi que pour les véhicules pair ou impair inverse, s'il y a covoiturage, c'est-à-dire trois personnes dans la voiture.
Je dis que c'est une grosse connerie et c'est pas la première de notre gouvernement. Et à mon avis, ça va aller en s'empirant. Il y a des problèmes plus importants que la pollution.
Que voulez-vous, que je travaille tous les deux jours alors, si je peux pas me déplacer? C'est peu logique, je trouve.
Et d'après moi, c'est pas non plus la solution. On interdit toutes les voitures et puis c'est tout.
Il faudra s'adapter. Moi, je suis pas... Comme je travaille pas, j'essaierai de m'adapter, hein, de circuler un jour sur deux. Il n'y a pas que les automobilistes, mais enfin, il faut que chacun y mette du sien.
On restera chez nous. Les jours où on pourra sortir, on sortira.
J'apprécie pas du tout. J'ai vécu ça au Nigeria. Alors il va falloir qu'on ait deux voitures. Je comprends pas.
Mais la pollution, c'est grave, regardez, pour vos enfants.
Oh, il est asthmatique, il le sera un peu plus, c'est tout. Je préfère avoir ma voiture. Hein.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.